بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. شفاعة الإسلام نغمسي الله عز وجل كي ندن possibilité ce soir de commencer سورة النازعات qui est le deuxième sourate du chapitre du juz amma yatasaalun du 30e juz du Coran. Et donc on a démarré par la grâce d'Allah Azza wa Jalla al-Fatiha an-Nas et on est remonté depuis 2004. D'accord, depuis 2004 et là alhamdulillah on est dans le second sourate de Amma. Moi j'ai dit à l'avant-dernier mais ça en fait le second sourate de Amma yatasaalun. Inch'Allah peut-être avant la fin de l'année, inch'Allah, peut-être qu'on pourra compléter Amma et Tasa'aloun. C'est vrai que c'est à raison d'une heure par semaine. Et en une heure, on essaie, en fait, quand on parle d'une heure, c'est plutôt 45 minutes. Si on ne compte pas les vacances, on ne compte pas parfois les coupures, les jours de férié, on essaie, dans la mesure du possible, de se limiter à un verset ou deux versets par jour. Il y a plusieurs façons de développer, de faire un dars de tafsir. On peut faire un nazi'at en une séance, en 40 minutes. D'accord ? En dégageant les thématiques principales et sans se focaliser sur chaque mot, sans ne pas faire un tafsir lafzi, mais plutôt ma'nawi, général, les thématiques. Mais nous, on préfère traiter deux ou trois versets et faire en sorte, bi'idhnillah, de retirer l'essentiel de ce qu'Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité de comprendre à travers ce verset par le biais de différents tafsirs, de différents kutub, principalement à partir de deux masdars, de deux livres différents, et essayer de trouver de quelle façon on va appliquer ce verset de notre vie. Parce que c'est ça le miracle du Coran. C'est un livre qui a été révélé il y a 1500 années dans un désert d'Arabie, à Mecca ou à Médina, et que 15 siècles plus tard, dans une île de l'océan Indien, avec une culture créole, une culture indienne, une culture européenne, française, tout ce que vous voulez, dans le contexte de fitna dans lequel nous habitons, nous évoluons, wallahi l'azim, ce verset, on peut le mettre en pratique tout de suite. Il n'y a rien qui est décalé. Et ça, c'est vraiment khas, spécifique au Coran. C'est vraiment quelque chose qui prouve, c'est un des caractères miraculeux, ça fait partie du mu'ajiza du Coran, que ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé dans un contexte qui, géographique, temporel, totalement différent de ce que nous vivons maintenant, peut être mis en pratique des siècles après. Que ce soit dans la zone Afrique, au Canada, en Europe, en Asie, en Arabie, ça c'est le mu'ajiza du Coran, quelles que soient les époques. Et ce n'est pas pour rien, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit, c'est ce hadith qu'on a répété au moins 74 fois la dernière fois, là c'est la 75e fois, je vous ai laissé deux choses, tamassattum bihi, si vous vous accrochez, l'antadillu, ce qui me plaît c'est abada. Abada ça veut dire quoi? Non, jamais. Never. Jamais vous ne serez égaré. Yani, jamais, c'est même si Dajjal est là, à la porte de la mosquée. Vous vous êtes accroché au Coran. Et là, dans le cas de Dajjal, comme on l'avait dit la dernière fois au Surah Kahf, par exemple, yani, vous ne serez pas égaré. Même si c'est le plus grand fatan, le plus grand kazab, le plus grand menteur de la création, celui qui peut vous faire croire ce qu'il veut, fait des miracles, des choses exceptionnelles, vous avez le Coran en vous. Dans votre cœur, quand je dis dans votre cœur, c'est pas mémorisé, non. Il y a des gens qui mémorisent le Coran, à la fin des temps, le Coran s'en va, quitte leur cœur. Ashratu sa'a également. Celui qui le met en pratique dans sa vie. Celui qui sait comment appliquer le Coran, comme le prophète alayhi salatu wassalam, l'appliquer les sahaba et les pieux prédécesseurs. Kana khuluquhu al-Quran. C'est pas kana yahfaz al-Quran ou kana yaqra hakadha. Non, il y avait des grands qari à l'époque. Il y avait, certaines personnes qui mémorisaient le Coran, pas tous les sahaba, mais l'intégralité, tous les sahaba mettaient en pratique chaque verset du Coran. C'est ça l'objectif. Pour ça qu'on prend du temps. Pour ça que, s'il y a des fois où on répète, il y a des fois où on a l'impression qu'il récapitule, il revient sur le même verset. L'objectif, c'est pourquoi est-ce qu'on revient? Parce qu'on estime que ce verset-là, il est trop important. Mais en fait, on se rend compte que tous les versets sont trop importants. Tous les versets sont énormes. Et à un tel point, je peux vous dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Je peux même vous dire dans Inna a'tayna kal-kawthar, je n'ai pas fait. Fassalli li rabbik. Non, ça j'ai fait. Inna shani aka huwa al-abtar, ça on n'a pas fait. Ça on va revoir avant la fin. C'est-à-dire, j'ai des remords, ça me reste. À travers la gorge, que j'ai pas fait inna shani aka huwa al-abtar. J'ai oublié. Je sais que j'ai oublié. Et on reverra ça avant de compléter juz'am. Chaque verset, mes chers frères en islam, c'est extraordinaire. Le Coran, wallahi al-azim, celui qui a demandé tawfiq, qu'Allah nous accepte pour créer la connexion avec le Coran. Parce que quand la connexion est créée, Allah, la tashba', votre ventre ne sera jamais rempli. Parce que le Coran, il est magnifique. Al-Fatiha. Al-Fatiha, bas. On peut l'étudier des mois et des mois. Il y a tellement de ahkam, il y a tellement de kutub, d'ouvrages qui ont été écrits sur surat al-Fatiha. Wallahi, al-Sab' al-Mathani, c'est ajib, c'est magnifique. Surat al-Ikhlas, il n'y a pas un surat du Coran qu'on peut dire que un ordre simple, quelque chose de basique, voilà. Là, wallah, c'est profond, c'est puissant. Pourquoi c'est profond? Pourquoi c'est puissant? Pourquoi ça nous dépasse? Parce que c'est la parole d'Allah. C'est une sifa d'Allah qui est en contact avec le monde des humains. La parole d'Allah, la parole du Créateur. Je suis en train de relire aujourd'hui des certains durus, certains cours sur l'importance d'étudier le Coran. Et une citation, il dit: فضل كلام الله على كلام الناس ولو على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. La supériorité de la parole d'Allah sur la parole de n'importe quelle autre personne, peu importe, c'est exactement comme la supériorité d'Allah, le Créateur, sur n'importe quelle créature. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de divergence. Dire que supériorité d'Allah sur ces créatures, amr ma'akoul, ma'loum, bid-daroura, c'est clair et net. Hakada, la supériorité de ce qu'on étudie, là, le Coran et verset, sur n'importe quel ouvrage littéraire, contemporain, classique, quelles que soient les époques, quelles que soient les civilisations, quelles que soient les courants philosophiques ou autres, rien à comparer. Tout comme on ne compare pas le Créateur avec ses créatures. Wallahi al-Azim, mes chers frères, ça c'est un ni'ma. Pour moi en premier, parce que je redécouvre les versets, je lis, je vois les tafsirs, je compare, je vois ce que Ibn Uthaymin rahimahullah dit, je vois ce qu'Ibn Kathir rahimahullah dit, je vois ce que le Qurtubi al-Fakhr al-Razi, et on n'arrête pas de s'étonner. On reste bouche bée, on se dit Allah. Et le pire c'est quoi? Enfin, le pire, le comble, c'est que je connais ces versets par cœur. Vous les connaissez? Vous connaissez Abasa wa Tawalla. Vous connaissez Hal Ataka Hadith al-Ghashiya. Vous connaissez Alam Tara Kayfa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Vous vous rappelez du tafsir de Alam Tara? Ajib. Il n'y a pas d'enregistrement malheureusement. C'est extraordinaire. Lorsqu'on avait vu comment Allah Rabbul Izzah avait détruit l'armée de Abraha avec ses éléphants, c'était vraiment une concrétisation qu'on montre le pouvoir de l'homme, tout ce que l'homme peut apporter d'extraordinaire pour écraser, pour essayer de lutter contre quelque chose qu'Allah a décidé de défendre et qu'Allah va montrer. Tu as utilisé tel moyen, tu as utilisé le monde animal, ce qu'il y a de plus impressionnant de le monde animal, l'éléphant, al-fil. Je vais utiliser ce qui peut paraître le plus insignifiant de le monde animal, ababil, des petits oiseaux. C'était pas des ptérodactyles, c'était pas des aigles ou autre chose, non, ababil, des moineaux, petits oiseaux. Avec quoi? Caillou. Ce n'est pas le ptérodactyle, je ne sais pas quel dinosaure, avec des rochers. Non, caillou. Un caillou, un petit gravier. D'accord? Pas même pas de moellon, comme ils utilisent quand on a un événement chaudron. Non, des petits moellons comme ça. Quand ça tombait, ça transperçait. Ça passait par la tête. Akramakumullah. Ça ressortait par l'anus de la personne, par le derrière. C'était comme des obus. Ça détruisait. Et sur chaque caillou, c'était écrit le nom de la personne qui devait le recevoir. Ajib, tafsir, ajib. مثل الله رب العزة montre, c'est la manifestation de sa puissance à l'état pur où l'homme contemple, l'homme voit. Wa makaru makran, ils ont essayé, ils ont préparé un plan. Wa makarna makra, et Allah a préparé son plan, façon de parler. Allah a décidé d'autre chose avec le même piège. Allah les détruit. Quand on voit les tafsirs sur la Taha, on voit les tafsirs de Al-Tasimim, Suratul Qasas et d'autres versets du Coran, qu'on voit comment Allah Rabbul Izzah parfois démontre à l'homme sa puissance. Quand on voit les gens qui ont essayé de brûler Ibrahim alayhi salam, quand on voit l'armée de Pharaon qui essaie de coincer Moïse, Moussa alayhi salam, quand on voit le peuple de Yunus alayhi salam qui jette Yunus dans la mer et que Yunus est perdu, et à chaque fois on voit par un asbab, avec ou sans intermédiaire, comment Allah Rabbul Izzah peut aider ses proches. C'est mathal, une leçon pour l'humanité. Ce sont là des manifestations du pouvoir d'Allah qui va à l'encontre de tout ce que nous maîtrisons, de tout ce que nous connaissons par ce qu'on appelle par l'expérience. C'est-à-dire par l'expérience des sens. Je sais qu'avec l'eau, on peut noyer. Je sais que le feu brûle. Mais non, le feu brûle, c'est Allah qui ordonne de brûler. Mais si Allah veut le rendre doux, agréable, soit de plaisir, Allah le fait. Inna ma'amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui avec, si on peut voir, avec fa idha hum bis sahira. Quand on va voir, inshallah, de le verset 13-14, il n'y aura qu'une sommation. Et voilà qu'ils seront sur la terre, lorsqu'Allah parle de la résurrection, bien sûr, lorsque l'humanité est détruite, bien sûr, mais lorsque toutes les créatures d'Allah sont sous terre, une sommation, un ordre d'Allah, immédiatement, une fraction de seconde, ils se réveillent tous, ils sont présents. Fa'idahum qiyamun yanzurun, et plein d'autres versets qui disent que al-mufajja, immédiatement, ils reçoivent l'ordre, ils sont là. L'ordre d'Allah. Donc, mes chers frères en islam, étudiez les versets du Coran. C'est le plus grand ni'ma, c'est le plus grand bienfait qu'Allah nous donne la possibilité d'intégrer ce qu'on a le tawfiq d'expliquer et surtout de retenir et de le mettre en pratique dans nos vies de la façon qu'on peut le faire. La sourate Naziat, je cherchais comment est-ce qu'ils l'ont traduit, ça va direct. Les anges qui arrachent les âmes, interdit au moins de 12 ans. Wa Naziat, ça vient de Naza'a. Naza'a, c'est arracher. Un naz'u, le fait de tirer. Waouh, ça commence direct. Wal-nazi'ati gharqa. On avait dit la dernière fois les trois premiers versets. Hein, par ceux qui arrachent violemment. Ça veut dire quoi par? Quand on dit par, et la plupart des sourates qui commencent par wa, avec alif lam, c'est al-qasam. C'est Allah Azza wa Jal jure par des créatures. Donc, est-ce qu'Allah a besoin de prendre en témoin des créatures pour se faire croire? Là, Allah. Sharaf. Sharaf. Pour honorer. Quand Allah jure par une créature, c'est entre autres pour montrer que ces créatures-là ont de l'importance pour Allah Azza wa Jal. Et là, les. Combien de versets? 5 versets. Les 5 premiers versets de Nazi'at, ce sont différents qasam par des qualités, des sifat, des anges, des malaïka. Et on connaît le monde des anges, on connaît l'importance du monde des anges, je n'en dis pas plus, parce qu'après on va ouvrir d'autres portes, mais on verra au fur et à mesure à travers les versets. Donc, « Wa naziati gharqa » par ceux qui arrachent violemment, c'est-à-dire qui arrachent violemment le ruh, les âmes. « Ya'ni al-malaïka, al-muwakkala » بقبض أرواح الكفار تنزعها بشدة. De ce verset, Allah Rabbul Izzah donc jure par ces anges qui vont arracher avec violence, sans pitié, l'âme de ceux qui ne croient pas en Allah. Vous dites, soyez plus soft, cher. Utilisez des termes moins violents. Le verset le dit de façon directe. Ils arrachent l'âme de ces gens. Ceux qui n'ont pas la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. C'est très simple. Ils ne sont pas sur Sirat al-Mustaqim. En termes de huquq, en termes de droit, en termes de respect, en termes de civisme, de citoyenneté. Il n'y a rien à dire. Le prophète alayhi salatu wassalam avait fréquenté des gens de toute confession, des Ahl al-Kitab, des mushrikin, ou ceux qui adoraient le feu, des Majous ou autres. Et le prophète alayhi salatu wassalam a toujours un comportement correct envers eux, très correct. Mais quand on parle de aqidah, de croyance, quand on parle de destinée de Jahannam, de Jannah ou de Jahannam, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter là-dessus, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas à arrondir les angles non plus. Parce que de toute façon, il n'y a pas de ségrégation là, on parle de l'au-delà. L'au-delà n'est pas concerné par aucune constitution, quels que soient les pays. Donc ça, il n'y a pas de droit d'auteur sur l'au-delà. Si, il y a le droit d'auteur, il y a le droit du créateur. Aucun homme ne peut pas mettre le grappin non plus sur l'au-delà, en disant qu'on n'a pas le droit de dire que ceux qui n'ont pas la foi n'entrent pas au paradis. Non, quand même. Ok, on accepte plein de choses, mais quand on parle de Jannah, Jahannam, wadih. Je me suis fâché d'ailleurs avec un frère pendant le mois de Ramadan en sortant la salat tarawih. Donc déjà quand on sort la salat tarawih, on n'est pas en forme, on a déjà lu, on veut une chose, c'est rentrer, manger du goulab jambou et puis dormir. Bref, c'est manger un dessert et puis dormir. Il pose une question, il y a un frère qui dit voilà, viens, demande le cheikh qui passe, dit oui, il veut quoi. Et il dit que oui, celui qui n'a pas la foi, qui n'est pas musulman, mais il fait de bonnes choses, Dieu va le pardonner, oui ou non? Je dis, écoute, je te dis le verset. Il dit, non, pas de verset. Qu'est-ce que tu penses, toi? Je dis, mais je suis qui, moi, pour penser? Allah ne m'a pas demandé de penser. A'ouzou billah. Allah ne m'a pas demandé de cogiter sur qui a le droit d'aller dans le Jannah, qui a le droit d'aller dans le Jahannam. Ça, c'est la décision d'Allah. Et cette décision, Allah l'applique en fonction des règles qu'il nous a révélées. Ça, c'est wahi, ça, mon frère. Là, tu ne discutes pas. Tu ne me feras pas dire le contraire. Ça, c'est wahi min Allah. Allah nous invite à réfléchir. On a vu dans Abasa wa Tawalla, Allahu Akbar, au moins 5 pistes de réflexion. Allah invite l'homme à réfléchir. L'homme est la seule créature dotée du libre arbitre. Capacité de choisir entre le bien et le mal. L'homme évolue, ses pensées évoluent, et ainsi de suite. C'est une qualité que l'homme a. Dans Abbas wa Ta'ala, combien de fois Allah demande à l'être humain, réfléchissez, avez-vous pensé, imaginez ce moment-là, pensez lorsque ce sera comme ci, comme ça, pour que l'homme réfléchisse, pour que l'homme se décroche des pseudo-réalités du dunya, qui en fait l'immobilise, le fait croire que c'est ça la vie. Pour que l'homme réfléchisse, jusqu'à retourner à la source. Quand tu es encore une goutte de sperme, le première piste de réflexion de Abbasa wa Tawalla, jusqu'à l'étape, la mort, la transition entre la vie du vivant et le monde des morts, jusqu'à le mahshar, les pistes de réflexion de Abbasa wa Tawalla, c'est extraordinaire. On n'a pas développé comme il le fallait, qu'Allah nous pardonne, mais c'est extraordinaire, c'est magnifique. On va voir quand Aïcha radhiallahu anha, elle entend le prophète sallam donner des informations qu'elle ne comprend pas. Elle dit, comment ça? C'est pas possible. Pas que c'est pas possible, mais comment est-ce possible? Quand on a vu la dernière fois, les gens seront ressuscités sans vêtements. Aïcha, elle demande au prophète d'Allah sans vêtements, les hommes et les femmes à côté, comment est-ce possible? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam donne la réponse. Le prophète sallam n'a pas dit que, écoute, quand on dit quelque chose, on applique. On ne t'a pas demandé de comprendre, de réfléchir. Là, wallah. Il y a des moments où il faut poser des questions, il faut comprendre. On va voir là aujourd'hui, Inch'Allah, quand le prophète me dit qu'il y a des gens qui aiment rencontrer Allah. Aïcha dit, attendez au prophète d'Allah, en ce sens, qui aime mourir? Personne n'a pas envie de mourir. Le prophète me dit que non, quand on dit que celui qui aime rencontrer Allah, c'est parce que telle chose pose des questions. Et le prophète me donne des réponses qui sont cohérentes et que ça aide à mettre en pratique parce qu'on comprend ce qu'on met en pratique. Par contre, décider de l'au-delà, c'est pas de notre sort. Ça fait pas partie de nos devoirs. Je dis clairement à la personne, celui qui a la ilaha illallah Muhammad Rasulallah dans son cœur, c'est miftahul jannah, c'est la clé du paradis. Il a la promesse, la garantie de la part d'Allah qu'il ne restera pas éternellement dans l'enfer. Khuloud, il y entrera certainement, comme le prouve d'Hadith, pour purger des péchés. Pensez-vous, celui qui est décédé avec le zina, l'adultère, sallallahu alayhi wa sallam, sans demander pardon. Celui qui est décédé avec l'argent, l'intérêt haram, sans demander pardon. Celui qui est décédé, qui a laissé ses parents, je ne sais pas, j'en discutais avec quelqu'un il y a deux jours encore, qui a laissé ses parents mourir dans une maison de retraite, sans les rendre visite, sans faire birr al-walidain. Vous pensez qu'il n'aura pas des comptes à rendre? Ben là, bien sûr que oui. Mais, ahl al-tawhid, ahl al-iman, il ne restera pas pour l'éternité de le jahannam. Ça c'est, selon les révélations, ijma' ahl sunnah wal jama'a. Maintenant, celui qui n'a pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, même s'il a multiplié les bonnes actions de ce monde, le jannah est haram pour lui. Innahu man yushrik billah faqad harram Allahu alayhi al-jannah. Celui qui associe d'autres à Allah, Allah a rendu le paradis haram pour lui. Faqad harram, le terme est cru, j'allais dire. Direct, clair, haram, haram Allah alayhi al-jannah. Wa ma'wahu an-nar. Al-ma'wa, c'est l'endroit qu'Allah nous protège, c'est l'endroit où on va, où on reste. Il restera donc en enfer. Wa ma li dhalimina min ansar, tout simplement. Ça, ce sont des points essentiels. Ce qui nous permet. Et puis la personne n'est pas contente, oui, mais la personne il a fait ci, il a fait ça, il a bon comportement, il y a des fois où il agit mieux que celui qui a la foi. Oui, sarahatan. Je connais des gens qui ne sont pas musulmans. Ils ont un comportement meilleur que la moitié d'entre nous. En tout cas, meilleur que moi. Wallahi l'azim, mithali. Des gens qui ont un comportement noble. Des gens honnêtes. Vraiment admiratifs. On dit Allah Akbar, celui-là il lui manque iman. Et il décolle. Il a la ilaha illallah. Il devient le meilleur parmi nous tous. Parmi toute la communauté. Mais s'il n'y a pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est exactement comme. Quel est l'exemple le plus frappant? Abu Talib, barakallahu fik, qui a défendu le prophète, qui a pris la défense physiquement. Quand il était là, on ne touchait pas à son neveu. Il empêchait les gens d'insulter ou d'approcher le prophète. Mais il est décédé sans la foi. Maintenant, la personne dit, oui, mais c'est pas normal, c'est pas juste, mais dis-moi clairement, au-delà des textes, qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Il voulait me faire dire que je pense que non, Allah va pardonner. Non, on ne peut pas dire ça. Wahi, wahi min Allah, c'est la révélation d'Allah Azza. Maintenant, je dis à la personne, yahi, prends le problème, pas le problème, mais vois les choses de l'autre façon. Shkurullah, remercie Allah, tu as la foi. Lève les mains, remercie Allah, matin et soir, qu'Allah t'a guidé vers le droit chemin. Et demande à Allah, thabat wa l'istiqama ila al-maut. De rester dans le droit chemin jusqu'à la mort. Parce que là, tu vois, celui qui n'a pas la foi, qu'est-ce qui se passe? Prends-le comme contre-exemple. Attention qu'il m'arrive ça un jour. Et dans l'autre sens, oui, celui-là, il a un excellent comportement, mais il n'a pas la foi. Khalas, ud'u, ud'u, ila sabili rabbik bil hikma wal mu'izati al hasana. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. C'est l'occasion que tu l'invites vers l'islam, yahi. Tu as pitié de lui, commence à se. Khalas. Fais en sorte que par tes paroles, par ta manière de parler, de ton comportement, tu deviens un motif de hidayah. Ça te motivera deux fois plus. Et on fait doigt pour chaque personne présente à l'assemblée. Ceux qui sont retournés vers le haq, s'ils ont des parents ou des proches qui n'ont pas la ilaha illallah de leur cœur, qu'en ce soir, Allah Rabbul Izzah envoie la hidayah de leur cœur. Comme Allah Rabbul Izzah a envoyé la hidayah de le cœur d'Umar ibn al-Khattab lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a fait ce doigt qu'Allah accepte. Donc, mes chers frères, c'est un verset cru qui explique que quand les anges vont reprendre l'âme de ceux qui n'ont pas la foi, les anges arrachent l'âme de ces gens parce que l'âme tremble. Celui qui n'a pas la foi, lorsqu'il voit l'ange de la mort s'approcher de lui, cette personne prend peur et l'âme ne veut pas quitter le corps parce que l'âme comprend avant que tu comprennes. L'âme sait exactement qu'est-ce qu'il attend. Et donc l'âme ne veut pas sortir. Et en commentaire, en Mufassirin, rahimahullah, ils expliquent que l'ange prononce des paroles blessantes. Ukhruji ayyatuha an-nafsul khabitha allati kanat fil jasadil khabith. Sors, ô âme impure, qui restait de ce corps impur. Ukhruji ila ghadabillah. Sors et retourne et va voir maintenant la colère de ton Seigneur. Pourquoi âme impure? C'est pas dans le sens. Après, c'est, on se la joue trop facile, dit oui, les croyants considèrent ceux qui ne sont pas musulmans comme impurs. C'est-à-dire que c'est l'impureté du shirk. Pas que celui qui n'a pas la foi, il est sale. Non. Ça, c'est gros doigt comme réflexion. D'accord? Et ceux qui se réfugient derrière ce genre de thèse-là, c'est, ils savent que le commun des musulmans, ils ne connaissent pas le tafsir des versets. Donc, ils peuvent se permettre d'avancer plein de thèses. D'accord? C'est-à-dire, c'est, qu'est-ce qui est impur? C'est le shirk. Le fait de ne pas croire en Allah. Ou le fait d'associer d'autres en Allah. Ça, c'est la plus grande des impuretés. Ce qui fait que l'âme n'est pas propre. Parce qu'elle n'a pas, elle n'est pas porteuse de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc, ça, en commentaire, on va dire en français, pour ne pas prendre trop de temps, je dois officier un mariage dans 10 minutes. Allah Akbar, que les mariés soient prêts, Inch'Allah. D'accord, parce que là, on est des sujets pas très amusants. Il dit que l'âme refuse de sortir jusqu'à, et ça, ça rejoint d'autres versets, jusqu'à ce que les anges se retrouvent parfois obligés de frapper hein, le corps de la personne. Bien sûr, ce sont des choses qu'on ne voit pas, parce que le monde des anges et le monde des hommes, ce sont deux mondes parallèles qui ne se rencontrent jamais, si ce n'est qu'au moment de la mort, mais cela concerne uniquement le défunt. Les gens qui sont autour, ils font leur prière, ils disent ce qu'ils veulent, ou la personne est en train de mourir sur le bord du chemin, tout seul aussi, dans un hôpital, en soins intensifs, entouré de ses proches, quelle que soit la façon de mourir. Cette scène se produit. Wallahi l'azim. Je jure par Allah que cette scène se produit parce que ce verset le stipule bien, tout comme d'autres versets. Mais c'est là qu'on voit le décalage qu'il y a entre le monde de l'invisible et notre monde. Vous voyez le nombre de choses qui se passent dans le monde de l'invisible. On est aveugle. On ne voit pas. Alhamdulillah qu'on ne voit pas. Deux sagesses, parce qu'on n'aurait pas pu supporter. Et deuxième sagesse, tout le monde aurait lu la ilaha illallah tout de suite. Mais Allah ne veut pas que les gens disent la ilaha illallah parce qu'ils ont vu la vérité. Non. Allah veut que les gens disent la ilaha illallah en croyant au plus profond de leur cœur, sans voir, sans entendre, sans forcément comprendre. C'est ça la beauté de la foi. Alladhina yu'minuna bil ghaib, celui qui croit en l'invisible. Alors celui qui essaie de comprendre la religion, de décrypter notre religion par un esprit cartésien, je veux des preuves par A plus B, la logique veut que il ne n'avancera pas de la religion. Parce que le din, c'est comprendre des choses, certes, mais c'est une connexion avec le monde de l'invisible. Tu y crois parce que tu sais qu'Allah il est là. Tu sais qu'Allah est ton créateur. C'est dans l'inéité, c'est de la fitra, mais ce sont des choses que si Allah t'a accordé la guider, alhamdulillah, tu l'as et tu développes cette foi. Tu le développes en accomplissant des bonnes actions, en t'éloignant du haram, et ce iman augmente. Parce que la foi augmente par l'accomplissement de bonnes actions. Elle augmente quand tu fais de bonnes œuvres et elle diminue quand tu fais des péchés. Via ta foi, c'est toi qui décides quel sera le niveau de ton iman. Ce soir, si tu vas en boîte, si tu vas t'asseoir avec des filles, si tu vas boire, ton iman va descendre. Ce soir, si tu te lèves, tu pries la nuit, tu lèves tes mains, tu fais doua, tu fais dhikr Allah, ton iman augmente. Tu fais la salat al-fajr en congrégation, ton iman augmente. Ton iman augmente, ce qui veut dire que face à la prochaine étape où tu auras le choix entre la bonne action et le péché, tu sauras prendre la bonne décision facilement. Quand tu auras le péché en face de toi, tu as un iman déjà fort, facile pour toi de t'éloigner du péché. C'est en fonction de tes actions que tu décides de l'intensité de ton iman, de ta foi. Donc pour revenir, donc ce premier verset explique comment est-ce que les anges retirent l'âme des koufars. On ne va pas terminer sur cette note-là qui est un peu douloureuse. Et par ceux qui recueillent avec douceur. Ça, c'est le cas des mu'mines. Et le Mufassil écrit, bien, qu'Allah me fasse et vous fasse tous parmi ces gens-là. Que lorsque les anges viennent reprendre leur âme, ça se passe en toute douceur. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont dans leur cœur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ce sont des anges différents? L'ange de la mort, c'est le même. L'ange de la mort, il y a un seul ange de la mort. Mais la délégation qui vient avec l'ange de la mort n'est pas le même. Si je ne me trompe pas, qui c'est qui avait donné une bonne explication? C'est pas Ibn al-Izz al-Hanafi ou... Pas Ibn al-Izz al-Hanafi, c'est un autre, son nom ne me revient pas. Il avait cité dans son recueil le hadith qui stipule que l'ange de la mort est accompagné d'un cortège de 500 anges. C'est comme si ils se mettent en rang. Et le défunt, c'est le seul qui les voit tous. Et ensuite, l'ange de la mort apparaît en fonction de l'état de la personne. Kafir ou mu'min. Le mu'min, lorsqu'il voit l'ange de la mort s'approcher, je pense que je vais expliquer ça ici, mais ça fait très longtemps. Il dit que la vision de l'ange de la mort pour le croyant pieux, c'est quelque chose de tellement beau, de tellement magnifique, que c'est suffisant pour être une récompense pour sa vie de piété. Allahu Akbar. La vision de Malik al-Maut avec la Rahma, j'ai plus les textes, c'est pas prévu, mais les perles de lumière qui tombent de l'ange de la mort sous son aspect le plus beau, qui vient rencontrer un waliullah, un proche d'Allah, le défunt lorsqu'il le voit, son cœur est tellement rempli de joie, kafa, que ça aurait été suffisant comme récompense pour lui, tellement c'est quelque chose qui remplira son cœur de joie. Il dit qu'il s'approche et donc il va converser, c'est pas l'objectif du tafsir, mais on avait vu ça dans d'autres versets, il yubashar, il annonce la bonne nouvelle qu'Allah est satisfait, qu'Allah est content de toi, et donc la personne est pressée maintenant de rencontrer Allah. D'où le hadith cité par le mufassir, walihada. Et c'est pour cela que le Prophète a dit man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a, celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a, et celui qui n'a pas envie, qui n'aime pas rencontrer Allah, Allah n'aime pas non plus le rencontrer. Faqalat Aisha, Aisha demande ya Rasulallah inna lanakrahu al-maut, au prophète d'Allah, nous, personne ne veut mourir. Et en commentaire, si on rouvre les portes de commentaire, le gars ne se mariera pas ce soir. En commentaire, le muhadith dit, c'est magnifique, dit, voyez le côté humain de chaque sahaba. Il ne faut pas non plus se dire que spirituellement, ils avaient atteint le top, mais ils restaient des êtres humains. Quand on parle de la mort, Aïcha dit au prophète d'Allah, qui c'est qui dit qu'il veut mourir tout de suite? Personne ne veut, n'est prêt à mourir. Et là, le prophète m'explique, non Aïcha, là il s'adhalik, c'est pas comme ça. Voilà qu'il n'a le mu'min. Et ce hadith, il est beau qu'Allah nous le fasse vivre, inshallah. Walakin al-mu'min, le croyant, idha hadarahu al-maut, lorsque le moment de mourir approche, bushira biridwanillahi wa karamati, on lui annonce la bonne nouvelle du contentement d'Allah et qu'Allah va l'honorer. Falaysa shay' ahabbu ilayhi mimma amama. Il y a rien pour lui maintenant qui compte plus que ce qu'il attend. Il n'y a rien pour lui maintenant qui compte plus que ce qu'il s'apprête de recevoir. Il n'y a rien pour lui qui compte plus, bimana, même sa famille n'a plus d'importance. Il n'est pas mort, hein? Il est dans l'agonie, sakarat. Sa femme en train de pleurer. Ses enfants pleurent. Ses nièces, ses neveux, ses petits-enfants peut-être. Jusqu'au moment où l'ange de la mort vient, son cœur est pour eux. Il pense à eux. Ma femme, 50 ans, 60 ans de mariage. Comment ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir sans moi? Et ainsi de suite. Mes enfants, mes petits, j'aurais tellement aimé voir telle chose qu'ils se marient, les voient. Mais quand c'est un croyant pieux, il voit l'ange de la mort qui lui annonce qu'Allah est satisfait de toi, qu'Allah t'a réservé tel degré de le Jannah. Il n'y a plus rien qui a de l'importance pour lui, ni toi. Ni sa femme, ni ses parents, ni ses enfants, si ce n'est ce que l'ange vient de lui annoncer. On vient lui dire la bonne nouvelle. Pour lui, il n'y a que ça qui compte maintenant. Il reste une étape. Il faut que cette âme sorte du corps. Il est pressé maintenant. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas tarder à enterrer les gens. Parce que si c'est un homme muttaqi, un homme pieux, donnez-lui sa récompense. Ne l'attachez pas. Ne le gardez pas en otage chez vous. Limiter les veillées mortuaires où les parents ils sortent de métropole, ils viennent, ils vont attendre 24 heures, une journée et demie. C'est pas bien de faire ça. Le mu'min salih, laissez-le, il retourne vers son Rabb. Il a besoin de retourner vers son Créateur. Il va enfin retrouver, il va enfin comprendre c'est quoi la salah que je fais depuis l'âge de 15 ans. Je suis mort à 70 ans. C'est quand je meurs que je comprends, que je goûte, que j'embrasse de mes deux mains mes salats que j'ai accomplis depuis l'âge de 15 ans, 5 fois par jour, sans en rater un seul. C'est maintenant que j'apprécie mes 30 saumes que j'accomplis depuis 45 ans. C'est maintenant que j'apprécie mon dhikrullah, mon tilawat al-Qur'an. Lorsque quelqu'un meurt, c'est le croyant qui meurt, c'est la délivrance du musulman. La délivrance parce qu'il quitte un monde de zulm, un sijn, une prison pour le croyant où la plupart des choses est haram, pour retourner vers un Seigneur qui est content, satisfait de lui, et il va enfin voir le fruit de ses efforts, le fruit de ses éloignements permanents du haram, de son contrôle permanent sur son âme. C'est la délivrance. C'est la récompense pour le mu'min que chacun d'entre nous vive ces moments, incha'Allah. Elle dit qu'à ce moment, il n'y a plus rien qui compte plus pour lui que ce qu'il va voir. Donc, فأحب لقاء الله وأحب الله لقاء. Donc à ce moment-là, il a envie maintenant de retourner vers Allah. C'est pas que quand il est là, vivant, il est parmi vous, il veut mourir. Non, c'est que quand il va mourir, il voit ce qu'Allah lui a, va lui accorder. Il ne demande qu'une chose, que de se détacher des liens de ce dunya pour foncer vers Allah, pour obtenir, en ce sens foncer vers le contentement d'Allah, pour obtenir ce qu'Allah lui a réservé. Et en commenter, hein, si on voudrait comment, on voulait commenter, mais il faut parfois le faire. On voit le décalage qu'il y a entre le monde des vivants, on ferme le livre, et le monde des morts, le monde des défunts. Nous on pleure, on est triste, on se dit que c'est une calamité qui s'abat sur nous. Lui, il est heureux. Ça vous donne une toute petite compréhension du décalage qu'il y a entre ce dunya, ces fausses réalités, ces pseudo-réalités, et le akhira, les réalités de l'au-delà. C'est différent de tout ce qu'on a acquis par expérience. Par expérience, on a conçu, on a intégré le fait que quand on aime quelqu'un, on s'attache à lui, plus on reste avec lui, plus on est attaché, plus il nous est proche par le sang, plus on l'aime, plus sa séparation est dure. Ça c'est les sentiments humains, ce qui fait de nous des humains. Mais quand on passe de le monde de l'au-delà, on se rend compte que ces sentiments-là n'existent plus. Quand on avait vu l'autre fois que quand il est question de hisab, on ne connaît plus le papa, la maman, le frère, la sœur, les enfants, personne. Mais pareil, quand il s'agit de retourner vers Allah, il n'y a plus rien qui nous intéresse parce qu'on veut aller vers Allah. Qu'Allah nous protège de connaître une mort par les anges qui arrachent les âmes de façon aussi dur qu'on a vu dans Wannaziat et Arqa, mais qu'Allah nous accorde plutôt une mort comme ceux dont les anges reprennent Wannashitat et Nashita, reprennent l'âme avec douceur parce qu'ils ont la ilaha illallah de leur cœur et qu'ils sont heureux de retourner auprès d'Allah. Qu'Allah nous accorde cette chance. On se voit la semaine prochaine pour compléter Inch'Allah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.